Au gré du temps. Passent les jours, passent les semaines, les souvenirs nous reviennent. Passent les saisons, restent nos chansons. À vous tous à l'écoute, Armand Dubois au micro, heureux de vous retrouver à nouveau. Notre invité aujourd'hui est issu d'une famille de musiciens. Son grand-père, Louis, fut violoncelliste, son père Roger, contrebassiste, et son oncle, le frère de son père, Maurice, fut également violoncelliste et membre de l'orchestre de chambre McGill et du quatuor Chartier. Pas étonnant qu'il se soit un jour retrouvé lui aussi musicien au sein d'un grand orchestre, l'Orchestre symphonique de Montréal. Il y a fait d'ailleurs une carrière brillante à titre de timbalier solo, une très longue carrière puisqu'il y a été pendant près de 50 ans. Un critique l'a même surnommé le poète des timbales. Il a dirigé des orchestres étrangers, enseigné au Conservatoire de musique de Montréal, à l'École Vincent d'Indy, ainsi qu'à l'Université de Montréal, et a dirigé des classes de maître à Toronto et à Los Angeles, ainsi qu'au Domaine Forget à Saint-Irénée. Il a été membre de jury de concours internationaux de percussion au Conservatoire de Metz et Strasbourg en 1971 et de Paris en 1973, et fut la même année répétiteur pour l'Orchestre mondial des jeunesses musicales en Israël. En mars 1998, il prenait sa retraite de l'Orchestre symphonique de Montréal, mais reste très attaché à la musique. Avec nous, le très attachant M. Louis Charbonneau. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez fait une carrière de près de 50 ans. Oui, c'est assez extraordinaire, ça.
Oui, ça passe très vite, hein, malgré tout.
Surtout comme instrumentiste d'un instrument qui n'a peut-être pas la grande popularité que peut connaître le violon ou le piano. Les timbales, c'est quand même assez particulier.
Oui, oui, ben, vous savez, c'est des gros chaudrons avec des pots. Et mais chose amusante, c'est que les gens regardent plutôt le timbalier que les violons.
Oui, et il faut dire que Louis Charbonneau était assez théâtral, parce que on a tous ceux qui sont allés entendre des concerts à l'OSM pendant ces presque 50 ans, en fait c'est 49 ans je crois, se souviennent de ce timbalier parce que vous étiez très extravagant dans vos mouvements.
Oui, mais ça vous savez c'est un peu, c'est pas, comment je dirais, c'est pas pour faire du spectacle, mais l'instrument, il faut quand même bouger sur l'instrument. Nous sommes entourés de 4 ou 5 timbales et puis bon, il faut passer de l'une à l'autre. Fatalement, on peut pas faire ça avec une ultime discrétion et l'enthousiasme m'aidant, bien sûr, voilà, ça donne le résultat que ça donne.
Alors, plongeons-nous immédiatement dans une pièce très caractéristique du son des grosses caisses, des timbales. C'est « Also sprach Zarathustra » de Strauss, ainsi parlait Zarathustra. Ceux qui ont vu le film 2001, Odyssée de l'espace, vont sûrement se souvenir de cet extrait. C'est une pièce caractéristique, mais ce n'est pas nécessairement la pièce la plus excitante pour un timbalier.
Non, ben vous savez, en général, le répertoire, quand on veut bien faire les choses, toutes les pièces sont intéressantes. Les difficultés rythmiques ou techniques, on a déjà passé ça au peigne fin chez soi ou dans un studio. Et puis, lorsqu'on arrive dans un orchestre, toutes les pièces les plus que moi j'ai toujours trouvé les plus difficiles sont les pièces de Bartok, Béla Bartok. Parce que Béla Bartok utilise un peu les timbales, c'est une façon extrêmement moderne d'utiliser les timbales, surtout des notes différentes, un peu genre, si on peut dire, contrebasse.
Donc, alors, il faut jouer avec les peaux?
Oui, oui, mais ça se fait avec les pédales. C'est assez rapide, ça a quand même ses limites. Et puis, il y a beaucoup, généralement, dans ces œuvres-là, beaucoup de changements de notes et tout, qu'il faut faire avec une précision absolument parfaite, et qui ne sont pas sans une grande difficulté, je dois dire. Je dois dire que je trouve plus facile de jouer le Sacre du printemps que de jouer, par exemple, le deuxième concerto de violon de Bartok, dans lequel il y a une partie timbale. C'est pas des choses rythmiques, c'est surtout des notes individuelles ici et là.
L'époque romantique, Beethoven, par exemple, sollicite beaucoup la participation de...
Oui, c'est plutôt standard comme écriture, quoique Beethoven a déjà innové énormément, par exemple dans le scherzo de la 9e avec des timbales en octave. Il a utilisé les timbales complètement différemment de ses prédécesseurs, soit Mozart et Haydn.
Alors, si on fait une rétrospective, si on remonte dans le temps, je mentionnais dans la présentation que vous êtes issu d'une famille de musiciens. Oui. Vous avez baigné dans la musique.
Oui, ben depuis mon jeune âge, nous n'étions pas très riches, pour ne pas dire pauvres. Et puis, le seul son musical que j'ai entendu à partir de l'âge de probablement 1 an, 2 ans, c'est la contrebasse de mon père. C'était l'époque 1932 où il n'y avait pas de radio, on n'avait pas les moyens de toute façon, il n'y avait pas les disques, il n'y avait pas les CD comme nous avons aujourd'hui. Mm-hmm. Et puis, ce son-là m'est entré dans les oreilles, probablement.
Et votre grand-père, qui portait le même prénom que vous,
oui,
a joué du violoncelle?
Oui, oui, oui. Oui, moi, il est décédé quelques années avant que je vienne au monde. Et puis, j'ai un arrière-grand-père qui a été facteur d'orgue aussi chez Casavant. Quand j'étais très jeune, mon père m'amenait toujours pour me sortir des jupes de maman, m'amenait souvent aux répétitions, et j'étais un garçon très sage, j'adorais ça d'ailleurs de toute façon, surtout sortir de la maison, et puis je m'assoyais toujours derrière les timbales ou la grosse caisse pour pas déranger.
Mais vous étiez attiré, comme à peu près tous les garçons quand ils sont très jeunes, par la batterie?
Pas dans les débuts, non.
Non, parce
vraiment
que vous avez fait du piano.
Oui, oui, pas vraiment dans les débuts. Et mon père surtout m'avait averti, tu touches pas les baguettes, tu ennuies pas les percussionnistes. Bon, alors, comme j'étais un garçon assez sage à cet égard, en tout cas, je me méfiais.
Mais vous avez quand même lorgné, vous auriez aimé à un moment donné jouer de la batterie, peut-être pour faire partie de certains groupes de camarades?
J'ai fait ça un peu plus tard, j'ai fait ça avec des petits orchestres, des petites formations, et j'ai fait ça j'ai commencé la carrière, on peut dire, en 1950, mais j'ai fait de la batterie de jazz jusqu'en 1965, hein. C'est quand même pas mal. Au début, avant d'entrer au conservatoire, j'accompagnais des piles de disques, hein, Harry James, tous les ce qu'on appelait les big bands de l'époque, et je voulais vraiment devenir un batteur de jazz, c'était absolument mon idée. Pas question d'être timbalier.
Vous pensiez jamais faire 50 ans ou presque?
Non, mais pas du tout.
Vous nous avez amené et apporté beaucoup de musique aujourd'hui. La prochaine pièce est extraite du Carnaval des animaux.
Oui, ça c'est mon grand-père et mon père jouaient ça. Mon oncle a joué ça aussi. C'est le Cygne de Saint-Saëns qui est interprété ici par Jacqueline Dupré, l'illustre violoncelliste qui est malheureusement décédée aujourd'hui. Et on dit que mon grand-père aurait accompagné Pavlova, la grande danseuse, lorsqu'elle venait à Montréal. Elle demandait toujours que Louis Charbonneau, mon grand-père, vienne interpréter ça pour elle.
Le Cygne est un célèbre duo pour piano et violoncelle. Quand vous parliez de Pavlova, effectivement, cette pièce est illustrée quand on y pense, par cette ballerine qui a vraiment marqué, d'autant qu'on a ensuite parlé de la mort du cygne.
Oui, mais cette pièce-là est justement jouée pour la mort du cygne.
Nous venons donc d'entendre Jacqueline Dupré au violoncelle. Avec nous aujourd'hui, Louis Charbonneau, qui fut timbalier solo à l'Orchestre symphonique de Montréal. Je disais, pendant près d'un demi-siècle, c'est pas évident de faire carrière avec un instrument semblable, parce qu'on se retrouve pas dans un salon à jouer des timbales.
Non, pas du tout. ni même dans une maison privée. Hein. Faut toujours avoir accès soit à des studios, des choses comme ça, parce qu'évidemment, c'est absolument pas possible. Non? Et mais moi, j'avais toujours un accès quelque part depuis le moment où je chantais au conservatoire. Il y avait toujours un studio quelque part, un escalier, chambre des fournaises, où on pouvait transporter des timbales et travailler. Et puis plus tard, ben, quand on fait carrière à l'orchestre, il y a toujours un petit coin, surtout par exemple à la Place des Arts, il y avait un petit coin, nous avons une pièce désignée pour les percussions, alors on peut aller travailler là.
La question va vous sembler banale, mais comment devient-on timbalier?
Oh, c'est une question de... Écoutez, moi, ma première leçon de timbale au conservatoire avec mon premier professeur, M. Decker, qui était aussi mon prédécesseur à l'orchestre, m'a donné une leçon de timbale et immédiatement, c'était comme j'avais ça dans les mains, ça m'a complètement fasciné et j'ai décidé que c'est ça. J'avais 14 ans, j'ai décidé que c'est ça que j'allais faire dans la vie.
Mais qu'est-ce qui peut justement être fascinant? Parce que ce n'est pas comme le piano, le violoncelle ou le violon, ce n'est pas mélodique, ce n'est pas mélodieux.
Non, pas du tout.
C'est un bruit qu'on provoque, c'est un accompagnement essentiel.
C'est un instrument d'appui, hein, instrument de divers appuis que l'on fait à d'autres sections de l'orchestre. Il y a des moments solo ici et là, mais ils sont plutôt rares. Mais c'est comme un coup de cœur. Et c'est ça que j'avais envie
de faire.
Ça a
vraiment été pour vous un coup de cœur.
Oui, à 14 ans, c'est ça que je voulais faire. Et puis, il faut dire que j'avais regardé quand même des timbaliers. J'étais à côté de... ou des répétitions, pas des concerts, bien entendu, oui. Des répétitions, des choses comme mm-hmm. ça. Et ça avait une certaine fascination pour moi. Mais quand j'ai joué, vraiment joué de l'instrument, je me suis dit, oui, voilà, ça c'est pour moi.
Voilà une pièce maintenant qui va sûrement vous plaire, puisque vous nous avez mentionné que vous avez aussi accompagné des groupes jazz.
Oui,
vous avez fait de la
sûr.
Musique jazz.
Oui, bien sûr.
Si j'évoque le nom de Sarah Vaughan, j'imagine que pour vous, c'est un grand nom.
Oui, c'est une grande chanteuse de jazz. Elle ne joue pas sur elle ne chante pas plutôt sur ce disque. C'est un disque pour orchestre de jazz.
Mais nous avons trouvé quand même une chanson avec Sarah Vaughan et l'orchestre de Count Basie. La pièce a pour titre « Until I Met You » et on vous la propose.
Oh, mais avec plaisir.
Fancy free, but now I'm lonesome as can be. To one lucky day, you came my way. I never knew what love was all about until I met you. I used to think there'd never be a boy who'd ever care for me, and what do you know? You made it so. I never knew what love was all about until I met you. When you kissed me, I felt the seasons change from winter to spring. When you kissed me, to rub my eyes each time I try to realize that your love is mine. Ain't it just fine? I never knew what love was all about until I met you. Since I found you, I feel what love was all about until I met you. I'm the happiest girl, 'cause you've got my head in a whirl. I never knew what love was all about until I met you. I never knew what love was all about until I met you. I never knew what love was all about until I met you.
Alors, cette pièce de Sarah Vaughan était un peu une petite surprise que nous vous offrions.
Mais oui, mais je vois, oui.
Alors, on mentionnait que vous avez aussi été membre de jury de concours internationaux.
Oui.
Ce qui vous a amené un peu partout, d'ailleurs.
Oui.
Est-ce que le contact avec les grands chefs, avec les grands, j'allais dire, les grands musiciens qui viennent oui. jouer avec oui. l'Orchestre oui. symphonique de Montréal, nous prépare bien à développer ce sens critique?
Écoutez, moi, j'ai eu la chance d'avoir d'excellents professeurs, M. Decker et M. Goodman, qui étaient le premier timbalier de l'Orchestre philharmonique de New York et le timbalier de Toscanini à l'époque. Et la suite de ça, j'ai eu d'excellents maîtres, mais la suite de ça, ce sont les grands chefs d'orchestre qui musicalement m'ont éduqué. J'ai une petite anecdote que je raconterai rapidement, par exemple. On est en train de faire une répétition avec Joseph Cripps, le grand mozartien de l'époque. Et puis, bon, moi, je dois faire une de ses têtes. Peut-être je m'étais couché tard la veille. Alors, il m'appelle à l'entracte et il me dit « Monsieur Chaminot, vous n'avez pas l'air très intéressé dans cette symphonie de Mozart. » J'avais dit, comme un parfait imbécile que j'étais à cette époque-là, sans doute, je dis, mais vous savez, c'est pas très intéressant, les parties timbales de Mozart. Et cet homme qui était le grand mozartien, et un homme de toute évidence très intelligent, m'a dit, ah, c'est parce que vous ne connaissez pas Mozart, je vais vous apprendre.
Et que vous a-t-il appris?
Oh, il m'a appris musicalement, il m'a appris à faire de la musique avec les timbales. Ça, je dois dire que ça a été un mentor. À chaque fois qu'il revenait, il faisait des commentaires. Il était très, sur la sonorité. Il était très à cheval sur la qualité de la sonorité. Il voulait que ce soit fort, mais il disait « not rough ». Il ne voulait pas que ce soit rude, il voulait que ce soit... Oui. Et j'ai appris beaucoup. Et à partir de ce moment-là, sans renier mes merveilleuses études que j'ai faites avec mes professeurs, j'ai commencé à penser mon instrument comme un instrument de musique, ou tout à fait différemment. J'ai commencé à faire des sonorités, je me suis fabriqué des baguettes. Ça m'a tout à fait orienté dans un tout autre sens.
Votre toute première formation musicale, elle est au piano?
Oui.
Vous retenez quoi de ces années de jeunesse?
Oh, la quatrième année, je veux passer là-dessus parce que ça a été désagréable. Mon père m'avait trouvé un professeur, un de ses amis. Bon, alors passons. Mais j'ai passé 3 ans avec Françoise Damour, qui était une merveilleuse professeure de piano. Et j'avais beaucoup de plaisir à faire de la musique avec cette dame, oui, qui a d'ailleurs enseigné jusqu'à il n'y a pas si longtemps, hein, de toute façon.
Alors, quand on parle de piano, on peut penser à Schumann, mais on pense aussi beaucoup à Chopin.
Oui, bien sûr. De tous les pianistes, de toutes les compositions pour
c'est le grand romantique.
Oui. Moi, les nocturnes de Chopin, ce sont vraiment mes pièces préférées.
Alors, vous nous en avez choisi une.
Oui, c'est un des nocturnes de Chopin qui est joué par Claudio Arrau.
Le numéro 1.
C'est ça, exactement.